Bonjour à tous et bienvenue pour notre chronique mensuelle d'Amnesty International. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Jean-François Dubost d'Amnesty International France. Bonjour Jean-François, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît ?
Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-François Dubost, je suis en charge des questions relatives aux réfugiés et aux migrants pour la section française d'Amnesty International.
Tu travailles donc sur le programme Personnes déracinées, mais qu'est-ce que exactement que ce programme ?
Alors, le programme Personnes déracinées, d'abord, le terme, on ne l'entend pas souvent. Nous l'utilisons pour ne pas nous restreindre à la question des réfugiés et des migrants. Il y a différentes formes de déplacement forcé dans le monde. Il y a des personnes qui sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Il y a des personnes qui fuient à l'extérieur, ce sont des réfugiés. Des personnes qui partent pour d'autres raisons, ce sont des migrants. Mais nous avons préféré utiliser le terme de personnes déracinées. Déracinées renvoyant bien à cet aspect essentiel de l'exil qui consiste justement à être coupé de sa terre natale, de ses liens, parfois et souvent, aujourd'hui encore d'ailleurs, de façon complètement forcée. Alors ce programme, il a l'ambition de suivre de très près ce que fait la France sur son territoire pour accueillir les réfugiés, mais également la façon dont elle peut traiter les migrants, notamment sur les questions de détention de ces personnes, mais aussi de suivre en lien avec les autres branches du mouvement Amnesty International en Europe, la situation en Europe, et on sait aujourd'hui qu'elle est extrêmement grave, notamment avec les frontières qui se ferment, les renvois de personnes, les négociations en cours entre l'Union européenne et la Turquie. Et puis, notre programme se concentre aussi sur une dimension internationale qui est essentielle pour Amnesty International, c'est d'agir aussi au-delà de notre propre territoire et de nos propres intérêts pour aider à améliorer la situation, le sort des réfugiés, par exemple en Asie, en Australie, ou encore bien sûr tout autour de la Syrie, dans le cadre du conflit qui sévit.
Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, parce que ça évolue extrêmement vite en ce moment, on le sait, où en est la crise mondiale des réfugiés ?
Voilà, la crise mondiale des réfugiés, c'était déjà l'an dernier, ça sera encore aujourd'hui, en 2016, je veux dire, le cas. Nous sommes à vraisemblablement plus de 20 millions de personnes qui ont été jetées en dehors de leur pays d'origine, de nationalité, c'est-à-dire qui ont franchi de façon forcée pour se mettre à l'abri la frontière de leur pays, pour trouver un refuge ou pas dans d'autres pays dans le monde. Le nombre de personnes déracinées à l'échelle mondiale, si l'on intègre le nombre des personnes qui sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays, avoisine les 60 millions de personnes. Nous sommes en plein dans une crise mondiale. Rien aujourd'hui ne laisse présager que cela va s'arrêter subitement, au contraire malheureusement, et notamment sous l'impulsion malheureuse de l'exil de près de 5 millions d'ailleurs de réfugiés syriens depuis le début du conflit qui sévit, donc depuis 2011.
Forcément, quand on parle de réfugiés, on parle de droit d'asile, donc qu'entend-on exactement par le droit d'asile ?
Alors, le droit d'asile, c'est le droit de solliciter, en fait, pour une personne qui n'a plus de protection dans son état de nationalité, c'est le droit de solliciter auprès d'un autre état une protection internationale, c'est-à-dire la protection dont chacun a le droit de bénéficier de la part de son état dont il a le passeport, et bien lorsque celle-ci fait défaut, et bien lorsque l'état refuse de la protéger, la persécute ou est incapable de la protéger, toute personne a le droit, au niveau mondial, d'aller toquer à la porte d'un autre État, aux frontières, et de demander à être protégé en remplacement. En fait, c'est un système de solidarité internationale, donc c'est ce qui justifie, et c'est extrêmement important de le souligner, le fait que les personnes qui sollicitent l'asile, qui ont besoin d'une protection internationale, eh bien, ont la possibilité de franchir irrégulièrement une frontière, contrairement à tous les autres cas de migration. Les réfugiés ont un droit à avoir une frontière ouverte pour solliciter l'asile.
Tu nous parles d'un droit international, mais quels sont aujourd'hui les pays qui accueillent des réfugiés et en particulier dans quelles conditions ?
85% des réfugiés sont accueillis dans les zones qui sont proches de leur pays d'origine, pour briser une idée reçue qui consisterait à penser, et qu'on entend souvent d'ailleurs, que les réfugiés choisissent des lieux privilégiés économiquement intéressants, et autrement dit l'Europe et d'autres pays occidentaux. En fait, ces personnes sont bloquées souvent dans les pays voisins du leur parce qu'elles n'ont simplement pas la possibilité d'aller plus loin. Ce n'est pas que la protection est très bonne, au contraire dans ces pays voisins. Si on prend le cas du Liban, un quart de sa population est réfugiée, ça pèse lourdement sur le statut des réfugiés. La Turquie, 2,5 millions de réfugiés, c'est le premier pays, qui accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde. Mais il y a aussi des situations oubliées, le Kenya avec des camps de réfugiés extrêmement importants où des enfants sont nés de parents qui étaient eux-mêmes nés dans un camp de réfugiés, pour dire que les situations peuvent se prolonger sur plusieurs décennies. Mm-hmm. Le Pakistan également, l'Iran font partie des pays qui accueillent depuis de très nombreuses années plus d'un million facilement de réfugiés sur leur territoire.
Où se situe la France dans cet accueil des réfugiés?
La France, en fait, se situe avec l'an dernier un nombre record de demandes d'asile qui avoisine donc les 80 000 personnes présentes sur le territoire qui ont sollicité l'asile en France. Autrement dit, c'est extrêmement, extrêmement loin derrière, et l'Europe aussi, hein, qui doit être à environ peut-être 280 000 demandes d'asile dans l'année dernière, eh bien cette Europe se situe franchement très très loin derrière des pays qui, encore une fois, comme le Liban, accueillent l'équivalent d'un quart de leur population, ou comme la Turquie, 2,5 millions de réfugiés de Syrie. Donc l'Europe est finalement très à l'abri pour l'instant. En dépit des arrivées extrêmement importantes l'an dernier de personnes qui cherchaient un refuge, l'Europe reste quand même très très loin derrière en termes d'accueil de réfugiés.
Ça rejoint un petit peu les dernières déclarations d'Angela Merkel qui disait qu'on pouvait bien tendre à accueillir beaucoup plus de monde que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant.
Mais non seulement on peut bien le faire, et ça c'est certain, parce que nous sommes 28 États membres, à 28 États membres avec une population de près de 550 millions d'habitants, il est possible d'accueillir facilement 1 million de personnes ou même plus. Là-dessus, il n'y a absolument aucun souci matériel et économique, ni même en termes démographiques, à le faire. Donc on peut le faire, mais c'est surtout la question pour nous, c'est on doit le faire, c'est-à-dire que l'accueil des réfugiés, en plus dans un contexte de crise mondiale des réfugiés, n'est pas une option. C'est une question juridique de solidarité internationale. Les États membres de l'Union européenne, mais d'autres États dans le monde qui n'accueillent pas suffisamment de réfugiés aujourd'hui, sont tous signataires ou pour partie de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés, qui prévoit justement en chapeau de cette convention un principe de solidarité. Les États doivent s'entraider pour protéger les personnes. Et bien aujourd'hui, on peut dire que la Jordanie, le Liban ou la Turquie ne sont pas aidés, ne sont pas soutenus par d'autres États, notamment ceux de l'Union européenne, pour protéger les réfugiés.
On parle de la Turquie, on est au courant, on a vu, il y a des négociations en ce moment entre l'Europe et la Turquie, justement, concernant cette aide à l'accueil des réfugiés.
Absolument, c'est un point extrêmement grave que nous suivons avec beaucoup, beaucoup d'attention à Amnesty International. La présidence actuelle donc des Pays-Bas de l'Union européenne propose un plan qui est en débat actuellement, visant à considérer que la Turquie pourrait être qualifiée de pays tiers sûr, ce qui signifie un pays dans lequel on pourrait renvoyer les réfugiés qui arriveraient sur les côtes grecques, de façon systématique, automatique, sans aucun examen des situations individuelles des personnes qui arriveraient après avoir traversé la mer Égée. C'est extrêmement grave pour nous pour deux raisons. D'une part, parce qu'on ne peut pas ne pas examiner des demandes de protection, les situations des personnes qui se présentent à nos frontières, et surtout d'autre part parce que la Turquie ne peut vraiment pas être qualifiée de sûre, ni vis-à-vis de ses propres ressortissants, on voit qu'il y a un durcissement du régime et des atteintes de plus en plus nombreuses aux droits humains, mais ni et encore moins à l'égard des réfugiés. Nous avons documenté des disparitions dans des centres tenus au secret de réfugiés, nous avons documenté des arrestations, des mauvais traitements, et pire encore, des renvois forcés en Irak et en Syrie de la part des autorités turques depuis le mois de septembre, c'est-à-dire depuis le début des négociations avec l'Union européenne.
Donc c'est vraiment une situation très difficile, enfin en particulier pour tous ces pays qui sont frontaliers.
C'est une situation difficile pour les pays frontaliers. La Turquie tire son épingle du jeu parce qu'elle a un intérêt à être reconnue, notamment dans le contexte de son adhésion à l'Union européenne, comme un pays sûr. Hein. C'est une étape supplémentaire pour pouvoir y arriver. Mais surtout, l'Union européenne, là, est en train de s'engouffrer dans une voie qui est absolument mauvaise, néfaste, et qui va surtout causer du tort et des souffrances à des milliers et des milliers de personnes dans les prochains mois si cela continue. C'est que d'une part, elle vise finalement à cadenasser ses frontières, quitte à déléguer sa responsabilité de protéger à des États qui n'en ont pas la capacité ni la volonté. Et puis surtout, on le voit au niveau interne, de plus en plus d'États sont en train de rétablir des frontières intérieures, en fait jouant au ping-pong ou à la patate chaude avec des groupes de personnes qui fuient la protection dans des conditions hivernales. On parlait là récemment ce matin de 200 personnes qui avaient été refoulées par la Croatie, dont des enfants.
Et alors justement, quelles sont ces personnes qui arrivent en Europe? Ils viennent de quel pays? Comment ça se passe?
Les deux principales nationalités, les groupes les plus représentés, on va dire, parmi toutes ces personnes, sont à la fois les Syriens, mais également les Afghans et également des Irakiens. Voilà, quand on donne les nationalités, on n'a pas trop de doute sur le fait que ces personnes fuient les conflits, ont besoin de protection internationale. Tous les discours qui aujourd'hui peuvent surgir sur le fait que ces personnes viendraient finalement chercher une meilleure vie sur le territoire de l'Union européenne ne tiennent pas face à la réalité des nationalités et de la situation dans le conflit. La situation en Afghanistan est loin d'être résolue, au contraire. Il y a de plus en plus de morts et de plus en plus de personnes qui fuient. La situation en Syrie, on la connaît malheureusement trop bien, et la situation en Irak est à peu près équivalente.
On nous parle beaucoup, et ça je pense qu'il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est pas très clair, on nous parle de relocalisation ou de réinstallation. Donc est-ce que tu peux nous préciser exactement de quoi il s'agit ?
Oui, bien sûr. En fait, alors pour commencer par le second, la réinstallation, c'est un point extrêmement important pour nous. Je vais le détailler rapidement. Il est extrêmement important pour nous parce qu'il s'agit d'une voie légale de protection des réfugiés. Aujourd'hui, les personnes, la majeure partie des personnes qui cherchent une protection sont obligées d'emprunter des routes dangereuses, la Méditerranée, la mer Égée, des routes terrestres dangereuses, et surtout de remettre leur vie et leur économie entre les mains de passeurs ou de bandes criminelles. C'est extrêmement dangereux et on connaît la conséquence, le nombre de morts qui ne cessent d'augmenter en mer Égée. Pour nous, la solution, c'est finalement un peu ce slogan simpliste mais qui est efficace, c'est des visas pour les réfugiés. En fait, la réinstallation, c'est ça, c'est permettre à des personnes de quitter les lieux où ils ont trouvé un premier refuge mais où ils n'arrivent pas à être protégés correctement, au Liban par exemple, mais aussi également dans un cadre autre que le conflit en Syrie, ailleurs dans le monde, le Kenya par exemple, et de pouvoir rejoindre un territoire sûr où ils peuvent reconstruire leur vie. Donc la réinstallation, c'est ça, c'est aller chercher, les États vont chercher des personnes, la France l'a fait pour 1000 personnes, ce qui est très peu depuis le début du conflit en Syrie, aller chercher des personnes dans les camps de réfugiés, dans les zones urbaines, identifier les personnes les plus vulnérables, en plus grand besoin de protection, et les amener de façon sécurisée pour qu'ils puissent se réinstaller au sens propre du terme dans un pays d'accueil. Ça, c'est la réinstallation. L'Europe a tenté de mettre en place un dispositif équivalent, mais à l'intérieur de ses frontières. Donc là, il s'agit plus d'aller chercher les personnes en dehors de l'Union européenne, mais de les récupérer lorsqu'elles arrivent en Grèce et en Italie, et de tenter de trouver un autre État membre plus à même de leur offrir une protection, plus à même d'examiner leur demande d'asile. Et ça, c'est ce qu'on appelle la relocalisation. La relocalisation ne fonctionne pas aujourd'hui à l'échelle de l'Union européenne pour un ensemble de raisons. Les États ne sont pas très volontaires pour offrir des places. Il y a des difficultés de mise en place des systèmes qui permettent d'identifier ces personnes aux frontières de l'Union européenne. Et la réinstallation, malheureusement, est un système qui, aujourd'hui, à notre grand regret, au moins au niveau de l'Union européenne, est un dispositif qui n'est pas contraignant. Donc ce sont uniquement des engagements volontaires. Vu l'atmosphère ambiante aujourd'hui, on se doute bien que tout ce qui est volontaire ne fonctionne pas trop.
Oui, bien sûr, oui, c'est de plus en plus difficile, d'autant plus que la réinstallation s'adresse aux gens qui sont les plus vulnérables, en fait, puisqu'ils n'ont même pas eu les moyens de payer des passeurs ou des fortunes pour traverser la Méditerranée.
Parfaitement, la réinstallation sont pour les personnes les plus vulnérables. Clairement, ce sont des femmes seules avec des enfants, ce sont des familles dont l'un des membres est blessé, ce sont des blessés, des victimes de torture, ce sont des personnes qui sont encore menacées quand bien même elles seraient dans un premier état d'asile. Ce sont vraiment des personnes qui... ont besoin de toute urgence, parfois même, soit de recevoir des soins médicaux, mais en tout cas d'être mis à l'abri, de pouvoir avoir la possibilité de se poser pour vivre. Nous avons en fait aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire passer comme message, nous ne pouvons pas rester impuissants parce que nous avons des solutions à proposer. La seule question, c'est pas qu'est-ce que l'on peut faire, la question c'est quand est-ce que l'on va le faire et comment et à partir de quand on va s'y mettre. Parce qu'en réalité, tous ces dispositifs qui consistent à aller chercher les personnes dans les lieux où elles se trouvent pour leur éviter des traversées dangereuses, pour éviter de voir des morts encore sur nos frontières ou sur les frontières, les côtes turques, en fait, tous ces dispositifs existent. Ils existent depuis des décennies. Simplement, là, aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est de convaincre les États du fait qu'il faut qu'ils amplifient le mouvement et qu'ils prennent la mesure de la crise dont on parlait en début d'émission, cette crise mondiale des réfugiés. Nous sommes dans une situation extraordinaire, il faut mettre en place des moyens et des réactions extraordinaires. Ça ne veut pas dire créer de nouveaux outils, ça veut dire simplement les utiliser dans des proportions plus importantes. C'est une question aujourd'hui clairement pour certaines personnes de vie ou de mort.
Est-ce que tu peux nous dire ce que chacun individuellement on peut faire aujourd'hui face à ça?
La première chose la plus simple, c'est de s'informer, savoir de quoi on parle et d'avoir quelques arguments pour éventuellement répondre à ceux qui pourraient nous dire que l'on ne peut rien faire, que l'on ne doit rien faire, que ce n'est pas possible de faire quelque chose, que l'on est impuissant. Donc il faut déjà s'informer pour ensuite être en capacité d'informer d'autres personnes, et ça, même si ça paraît pas grand-chose, c'est extrêmement important pour nous. On voit que c'est dans les esprits que les décisions se prennent, se construisent pour qu'ensuite les politiques puissent les prendre. Donc c'est extrêmement important. La deuxième action qui est aussi simple, c'est de rencontrer son élu local, c'est de rencontrer son élu national. C'est facile, il y a des permanences d'accueil en mairie, il y a des permanences des députés européens et des sénateurs, et c'est d'aller les questionner en leur disant, en tant que citoyen, je n'admets plus ce nombre de morts aux frontières de l'Union européenne, je n'admets plus ce jeu de ping-pong, qu'est-ce que l'on doit faire? Dites-moi si vous voulez porter auprès du gouvernement, questionner le gouvernement pour qu'il accepte de prendre plus de réfugiés sur son territoire. Il faut absolument qu'il y ait une mobilisation citoyenne de plus en plus importante. Un certain nombre et un grand nombre, et c'est fort heureux, de personnes se sont mobilisées pour accueillir réellement des personnes. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas encore. Il faut que la question et cette mobilisation se portent sur le terrain politique pour contraindre les gouvernements à prendre en compte, nous, nos aspirations de citoyens, à savoir, pas en notre nom, tous ces morts à nos frontières et toute cette politique qui vise juste à les maintenir à l'écart.
Je te remercie vraiment pour tous ces éclaircissements, toutes ces réponses. Et puis, j'espère que nos auditeurs auront compris l'urgence de la situation et qu'il appartient à chacun d'entre nous de bouger, de faire faire quelque chose pour ces réfugiés.
Je l'espère aussi. Merci.
Merci beaucoup, Jean-François. Au revoir.
Au revoir.